liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 48, année 2015. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, un sommaire fourni.
Oui, plutôt. Il faut croire que les semaines d'avant étaient tranquilles. On va vous parler de la Adopi.
Encore.
Toujours. Hein. L'innovation, Bassel, les hackerspace ou le hackerspace et le management. La Free Software Foundation qui parle de Windows et pas combien. Le logiciel libre à Toulouse, Capital et Bazar. Les communs, tu vas adorer. Et un article sur le renseignement et les libertés numériques pour terminer.
L'Express, en 6 ans, la Adopi a-t-elle servi à quelque chose? Un article de Raphaël Carayon.
À rien. Je veux dire, ça sert à rien, là.
Si, ça nous a quand même cassé les pieds.
Ouais,
et ça nous a fait rigoler. Et ça nous a énervé aussi.
Un petit peu, voilà. Bah, il faut tout. Et puis, ça, voilà, ils ont fait bosser des gens très intelligents, sûrement, mais voilà. Qui, là,
et puis,
montraient
ils ont
ponctionné
nos impôts de quelques millions pour, effectivement.
Pour faire plaisir à des ayants droit et qui ne nous font pas plaisir à nous, parce que vraiment, bah, on n'aime pas la Adopi. Hein. Est-ce qu'ils ont besoin de le dire?
Voilà, alors, on en a pas mal parlé ces derniers mois, elle est critiquée de toutes parts. Alors, ils ont viré leur secrétaire général, Eric Walter.
Après l'avoir encensé.
À droite, à gauche, des gens ont dit non, mais ce truc ne sert à rien, ils n'ont pas réussi à prouver leur efficacité.
Ils ont réintégré leur secrétaire parce que le juge a dit qu'il fallait le réintégrer finalement.
Oui, mais bon,
ça fait plaisir. Hein.
Ouais, bon. Donc aujourd'hui, ils ont un budget plus important, 8,5 millions d'euros pour quelque chose qui ne sert à rien, c'est quand même pas mal.
Alors, ça ne sert pas à rien, ça fait fonctionner la poste et les emails, puisque, et c'est ça qu'ils revendiquent, et ils montrent une petite courbe du nombre d'envois d'avertissements. Attention, avez-vous bien sécurisé votre accès Internet? Donc il y a une jolie courbe et on voit là, ils sont à 231 000 en juin 2015 et ils sont fiers.
Et ils disent également qu'ils ont observé une baisse des téléchargements.
De la piraterie
jusqu'en 2013, date à laquelle ça s'est stabilisé.
Oui,
donc
alors
ils disent en gros, ça n'a pas été complètement inutile puisqu'on a quand même fait baisser la piraterie.
Alors ils parlent forcément d'une sorte en particulier, c'est le peer-to-peer, P2P, qui effectivement était très utilisé, qui est technologiquement la meilleure solution pour faire de la diffusion en masse, donc vraiment un très bon outil. Ils ont effectivement probablement joué à diminuer son usage, ce qui est bien dommage, et à la place, puisque non, les gens continuent à télécharger, il semblerait, bien les gens font du streaming, ils téléchargent et ils regardent directement sur des sites web.
Voilà, ils disent quand même qu'ils ont fait une étude où moins de gens affirment télécharger de la musique.
Oui, bien sûr, c'est vrai que quand la Adopi arrive...
Mais après, bon, peut-être qu'avec le streaming, ils se disent, mais comme je fais du streaming, c'est pas illégal, je pense que tout le monde n'a pas conscience que c'est illégal de passer par le streaming.
Et effectivement, pour ce qui est de la musique, t'as peut-être raison, parce que y a des licences globales qui sont mises en place, qui sont pas des licences globales, un autre système qui nous plaisait bien, mais qui sont plutôt des licences mangez tout ce que vous voulez, fait par certains ayants droit. Donc vous arrivez, vous avez droit à toutes les musiques de je ne sais
sur
quel
abonnement. Voilà,
voilà, vous abonnez,
bon,
Spotify,
sachant évidemment
et tout ça.
Que ça n'est, enfin, c'est jamais complet, que on est très très loin d'avoir l'incroyable richesse qu'il pouvait y avoir dans le peer-to-peer.
On ne possède rien, hein, bien sûr, c'est toujours une question de droit de lire. Vous n'obtenez que le droit de lire. Référez-vous, il y a un texte de Stallman qui est pas mal à ce propos.
BFM TV, l'open source accompagne l'innovation collaborative, un article d'Olivier Lafargue.
Alors, tu vois bien que la télé, des fois, c'est pas si mal.
Non, je ne te crois pas.
Bah attends, BFM TV qui
en
parle...
Plus, déjà, BFM et TV, ça fait beaucoup de handicap pour...
Ah, ils partent de loin, je dis pas, voilà. Effectivement.
Et ça se sent un petit peu, d'ailleurs, dans l'article.
Ils expliquent pourtant ce que c'est que le logiciel libre. Ils repartent, ils disent, voilà, ça fait une trentaine d'années, les bases, Stallman, tout ça.
On sent quand même un petit fond de dénigrement, ou en tout cas, on prend pour ça que c'est un truc de post-68-art, etc.
Mais justement, c'est de là que vient l'article et il remonte dans notre estime parce qu'il présente le fait que le libre, l'open source, c'est très important pour l'innovation en général.
Ouais, ils disent aussi que, en gros, les boîtes qui font du libre, ils en citent un certain nombre d'éditeurs, ils disent en gros, ça reste des PME, donc c'est pas bien parce qu'il faut nécessairement devenir gros.
Oui,
et puis, de toute façon, ils se font racheter.
Oui, voilà, oui, bah, clairement.
Ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a quand même plein d'éditeurs de logiciels libres qui sont là depuis longtemps, depuis des années et qui n'ont toujours pas été rachetés. Certains l'ont fait, mais ils sont pas si nombreux que ça.
Mais effectivement, ils mettent en avant le modèle de l'innovation où les gros rachètent les petits, qui sont ceux qui bougent vraiment. Et les gros, eux, ne font que développer le marché, hein, c'est tout. Alors
ils disent aussi que voilà, les gens qui ont peu d'exigences se rabattent sur le libre. Non, il y a quand même un petit fond de dénigrement.
Oui, bon, t'as pas tort. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'aller lire ces articles-là, voir ce qu'ils en pensent.
Voilà, mais pour moi, il y a plein de trucs faux, tu vois. Il y a plein d'outils professionnels, notamment dans la gestion documentaire ou ce genre de choses,
qui sont largement
qui sont, voilà, et où les solutions libres sont sont
Alfresco,
par exemple, ouais, qui sont tout à fait compétitives et voire même plus avancées que des solutions propriétaires. Voilà, moi au boulot j'ai mis les doigts dans le machin de Microsoft là, donc j'ai oublié.
Ah ouais, non mais on veut l'oublier le nom.
Et c'est une horreur. Enfin, je veux dire, c'est juste l'enfer. Donc voilà, il y a quand même une bonne grosse part de parti pris de mauvaise foi.
On sent bien qu'il y a un fond. Ils viennent de loin. Mais justement, on faut apprécier le fait qu'ils évoluent, ils apprennent ce que c'est que ces outils-là, et ça peut être pas mal. Alors, article suivant, là, c'est beaucoup plus sérieux.
L'informaticien, Free Bassel, l'informaticien et contributeur du libre, Bassel Kartabil, est condamné à mort en Syrie. Un article d'Emilien Ercolani.
On a déjà parlé de ce gars. Bon gars, il y a sa photo hein, qui est sur l'article.
Oui.
Et il a le malheur d'être né au mauvais endroit, peut-être.
Oui, alors, c'est pas dit sur cet article-là, mais on se rappelle qu'il était à l'étranger, qu'il est rentré en Syrie, qu'il a été arrêté aussitôt. C'est quelqu'un qui était actif dans les mouvements Creative Commons, Wikimedia, Mozilla, etc. Et bon, ben bah, voilà, le type alors,
On en était au moment où il avait été emmené en prison militaire, donc c'était mauvais signe. Et bien là, ils sont que c'est officiel.
Il a été condamné à mort.
Et là, c'est très mauvais signe parce que bah, comment tu t'en sors quoi, une fois que tu es en Syrie. Donc, il y a un mouvement qui essaye de se faire jour et qui fonctionne. Donc, c'est Diez Free Bassel. Il y a beaucoup de libristes qui sont derrière ça. Mais effectivement, c'est une vraie galère. Personne va aller sur place, hein, j'imagine. Ah, bonne chance. Vrai, et puis, dans le nombre de morts total sur la place, c'est vraiment compliqué. Petite note, il a participé à un projet de reconstruction tridimensionnelle de Palmyre. Et donc, dans cette atmosphère où Palmyre a été repris, piqué, détruit.
Et détruit à l'explosif.
Là, c'est quelque chose de quand même fort, il va peut-être laisser son nom derrière lui. Bon, mais c'est assez terrible tout ça.
Les Échos, le hackerspace, une bulle d'expérimentation managériale, conduite du changement, un article de Marie-Sophie Ramspaché.
Alors bah, là aussi, les échos business,
oui.
Donc ils partent de loin, mais ils partent d'innovation, mais une autre innovation, le management, en partant d'une idée de sociologie du travail. Le travail, ça va mal aujourd'hui.
Oui, alors et surtout la partie innovation, c'est en fait une récompense qui a été donnée à un sociologue du travail qui s'appelle Michel Lallemand. Il s'est intéressé au hackerspace, donc l'article commence par dire attention hacker, c'est pas des gros anards, attention, il se passe des choses intéressantes.
Ou pas que.
Voilà, avec bah, laisser des espaces, on en a parlé plusieurs fois, où on peut expérimenter, tester, développer des nouveaux produits de façon très agile avec des gens qui travaillent avec assez peu de contraintes.
Et qui sont motivés.
Voilà.
Parce que c'est ça, moi, que je trouve rigolo dans l'entête de l'article. Il présente le travail dans la société actuelle où, comme quoi, les travailleurs, ces chers travailleurs, sont tous démotivés. Ils découvrent ça.
Oui, après, je pense que, notamment sur les grosses structures, il y a énormément de complications dues aux structures. Pour avoir travaillé quelques années dans des services d'innovation, un grand groupe, mais en fait c'est la guerre des chefs. Donc même si les gens sont motivés, même s'il y a des bonnes idées,
on les démotive très rapidement.
Voilà, et les guerres de chefs, les stratégies, les machins, etc., fait que tout ça a tendance à s'annuler. Là, on a des gens qui bossent dans leur coin, qui font des trucs. Et effectivement, ces grosses boîtes subventionnent ces activités et vont après piocher ce qui les intéresse. Bon, après, ils ont peut-être une vision un peu positive hein, parce qu'on sait qu'en région parisienne, il y a la paillasse qui rentre vraiment dans cette catégorie-là et ils ont quand même du mal à boucler leur budget. Et c'est pas la vie rose et facile pour.
C'est avec des articles comme ça que probablement il y a des boîtes qui vont s'y intéresser. C'est des pôles d'innovation, innovation managériale. Mmh. Les gens sont motivés, on peut faire bosser des geeks, ça marche.
Silicone.fr, pour la Free Software Foundation, Windows est un malware. Un article de David Feuget.
Il n'y a pas d'un point d'interrogation à la fin de la phrase, mais on sent quand même que c'est un troll.
Oui, en tout cas, ils disent nouvelle provocation de la part de la FSF, mais en même temps, ils disent qu'il y a des arguments solides.
Ah, carrément.
Donc, voilà. Ils sont un petit peu entre les deux, mais c'est très bien qu'ils relaient cette position. Donc, la FSF rappelle les choses dont on a déjà parlé.
Bon, pour prendre, hein, c'est les grands titres. Obsolescence imposée.
Surveillance par défaut.
Et privation de liberté.
Voilà. Donc, on rappelle hein, que le Windows 10... Bah déjà impose d'avoir des comptes Microsoft dans tous les sens, espionne énormément d'informations, y compris ce qu'on écrit dans ces documents.
Soi-disant, on peut désactiver cet espionnage, mais
voilà.
Bonne chance.
Mais l'article lui-même admet que c'est très compliqué, que les systèmes ont tendance à remettre...
Oui, c'est bizarre.
Windows a tendance à remettre les préférences dans les positions initiales, etc. Et qui peuvent neutraliser des logiciels à distance, enfin, et même les désinstaller carrément.
Ils se dérangent pas, hein. Voilà. Ils s'embêtent pas. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, de la même manière que Microsoft avait traité le libre de virus... On sent que là, la Free Software Foundation, ils ont ce côté-là, ils ont envie
malware,
de dégainer.
C'est
un malware, c'est un virus, ça s'installe partout. Désinstallez-le, parce que c'est une saloperie. J'aime beaucoup ce retour-là, c'est très rigolo.
ZDNet, logiciel libre à Toulouse, le Capitole et le Bazar, un article de Louis Adam.
Alors ça t'a impressionné?
Oui, oui, oui. Alors le Toulouse Capitole du Libre, c'est un événement sur le libre qui a lieu à Toulouse, bien entendu, depuis quelques années maintenant, avec les attentats. Il faisait ça dans une université. L'université voilà, a dit, bon voilà, c'est fini. En tout cas, on le fera pas cette année pour raison de sécurité.
Et oui, du coup, trop compliqué. Hein.
C'est vrai, on en avait entendu parler et on pensait que c'était mort, effectivement. Et en fait, non, ils ont réussi à remonter le truc
dans des lieux
associatifs. Il y avait tellement
de gens qui ont dit qu'ils venaient malgré tout parce que leur billet était déjà booké. bookés, ils avaient déjà les lieux sur place où ils allaient être hébergés. Non, plein de gens voulaient venir et donc oui, ils sont motivés, voilà. Ils sont lancés.
Et ce que je ne savais pas, c'est qu'ils disent qu'ils ont 1200 visiteurs, ce qui commence à faire une fréquentation vraiment importante pour un événement sur le libre. Et ça, c'est très très bien. Ils sont un peu plus orientés du côté du monde des entreprises. Microsoft est venu présenter ce qu'ils font dans le libre, ce genre de choses.
Et Dieu sait qu'ils en font de plus en plus, on en parle régulièrement.
C'est un positionnement un petit peu différent par rapport aux rencontres mondiales du logiciel libre, qui se déroule chaque année dans une ville différente, et ils sont un petit peu plus orientés business. En tout cas, c'est vraiment super de voir qu'ils ont pu tenir l'événement malgré tout.
Alors, et pour le coup, pour le tenir, ils ont été aidés des associations locales qui leur ont prêté, alors notamment des containers pour faire des bureaux, des salles de conférences.
Effectivement, c'est un lieu, c'est une sorte de collectif d'artistes, de squad d'artistes, qui s'appelle MixArt, Miris, et d'autres associations. Donc, il y a eu vraiment la solidarité là-dedans.
De l'entraide, c'est bien.
Et c'est super.
Ça fait plaisir, il faudra qu'on suive l'année prochaine.
Telos, le commun, une nouvelle forme d'organisation économique, un article de François Meunier.
Alors ça commence avec un ton en image spéciale.
Donc ça reparle des biens communs dont on parle régulièrement. Tout ça, ça revient au départ, donc en parlant de la tragédie des communs qui avait été formalisée par Garrett Hardin.
Et qui avait marqué le monde de l'économie, et même des politiques aujourd'hui qui continuent à le citer abondamment.
Et donc en rappelant que Elinor Ostrom, qui était assez peu connue de ce que dit l'article, a cité des cas réels, elle a fait une chose que peu d'économistes font, c'est-à-dire aller faire du travail de terrain.
Ça c'est moche.
Voilà, ça c'est
moche
pas bien,
ce que tu dis. On sent le sociologue en toi qui pointe.
Non, mais c'est vrai. Et en plus, il y a eu des études dans le monde scientifique pour montrer que c'était la discipline dans les sciences humaines qui fait le moins de travail de terrain.
C'est terrible.
Non mais je l'invente pas. Non mais c'est voilà.
Mais en tout cas, effectivement, ils se sont bien plantés parce que la tragédie des communs était utilisée comme une sorte d'axiome qui permettait à plein de gens de mettre en place des politiques économiques fortes.
Oui, parce que derrière, il y a l'idée que comme la tragédie des communs est inévitable, soit on fait une régulation publique, mais c'est pas très bien parce qu'on n'aime pas public, soit on fait une appropriation privée qui va ensuite revendre des droits d'exploitation.
Et que là, ça marchera vachement bien.
Voilà, et donc du coup, on voit un peu le programme qu'il y a derrière de, on a un bien commun et on va privatiser tout ça.
Et le thon, c'est l'exemple parce que le thon rouge dans les mers est en train d'être surpêché, donc c'est une tragédie des communs typique, et donc ils disent, il n'y a pas 36 solutions, il faut des systèmes de quotas ou faut que l'État s'impose.
Et alors, dans Elinor Ostrom, il faut bien voir qu'elle dit qu'effectivement, il y a des situations dans lesquelles les systèmes de gestion de commun n'arrivent pas à se mettre en place, et notamment quand il y a des gros acteurs qui sont beaucoup plus puissants que les autres. Et donc, ça ne marche pas à tous les coups, il faut quand même des conditions, des fois, ça
échoue. Et puis, il faut une motivation de tout le monde, à un moment donné.
Tout à fait.
Mais en tout cas, c'est une alternative sérieuse, et nous, on aime bien parce que le logiciel libre est pris en exemple, c'est un exemple de ce
monde-là. C'est les communs informationnels qui sont évoqués par la suite. Ça fait partie de cet article de fond.
Assez complet.
Assez complet et tout à fait accessible, très clair, etc., qui raconte bien l'histoire. Donc vraiment un article à lire si vous voulez vous intéresser sur le sujet. Et c'est vraiment un outil intellectuel intéressant qui permet de faire contrepoids à nos adversaires parce qu'on a quelque chose à manipuler qui a du sens et de la
réflexion. Prix Nobel, c'est pas rien, même si c'est l'économie, ça marque un peu, ça marque le coup.
Tout à fait. Global Security Mag, Axis, Renseignement et Liberté Numérique, un article d'Emmanuel Lamandé.
J'étais déjà tombé sur ce site-là et je pensais pas qu'on allait le citer dans nos contextes. Renseignement, Liberté Numérique, d'une manière ou d'une autre, là on parle un petit peu de ce qui est sorti des attentats.
Tout à fait.
La peur que les terroristes utilisent les technologies qu'on connaît dans le logiciel libre.
Effectivement, donc l'article est long, très complet et très intéressant. Il fait vraiment un tour d'horizon et il est vraiment bien parce qu'il va relier des tas d'événements différents.
Il est très long et il est écrit tout petit en plus.
Il est écrit tout petit.
C'est franchement pas facile.
Mais on peut faire contrôle molette pour grossir le texte.
Ah oui, effectivement, j'avais oublié ce genre de choses. Alors il repart, il réexplique le Patriot Act. Elle explique, parle de l'article. Monsieur.
D'accord, excuse-moi.
Le Freedom Act et de ce que les parlementaires français maintenant risquent de faire. Donc ça risque d'être assez terrible.
Oui, effectivement. Donc elle explique tous les dangers, tous les problèmes, toutes les tentatives. Enfin, c'est cette envie de contrôler, de faire de la sécurité, etc. Elle relie ça avec des tas d'événements récents de ces dernières années. C'est vraiment très intelligemment fait. Elle cite des notions que je trouve vraiment intéressantes, notamment une notion que je ne connaissais pas et qui me semble extrêmement pertinente, qui est la quantophrénie, qui est l'idée que d'essayer de tout quantifier et d'ignorer ce qui n'est pas quantifiable. Et ce qui donc du coup est une forme de réduction d'appauvrissement
et d'aveuglement.
Et d'aveuglement, voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant et ça montre qu'il y a de la richesse. Autant les buzzwords qui veulent dire tout et n'importe quoi, ça ne sert à rien et c'est vraiment un truc pour faire du blabla et des choses comme ça. Quand on tombe sur une notion comme ça qui est précise et qui pointe vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil intéressant, quoi. Donc c'est un article à lire.
Ah oui, non, je pense qu'effectivement, et puis de toute façon, on en reparlera. La sécurité, le logiciel libre, on est dedans à un moment.
Sa conclusion, il faut le dire, est quand même de faire le pari de la réappropriation des données, du contrôle, de mettre de la démocratie, ce genre de choses qui sont plutôt mal parties actuellement.
N'est-ce pas ? Bon, je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vinault.